Ce matin, j'aimerais vous lire deux textes pour commencer dans la liste des textes du jour qui sont prêchés dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Et juste avant de les lire, il y avait quatre textes, j'en ai retenu que deux parce que, au départ, quand je l'ai lu tous ces textes-là, je me souvenais pourquoi ces deux textes sont-ils en parallèle dans les lectures proposées aujourd'hui. Et c'est cette interpellation qui m'a guidé pour vous partager la parole aujourd'hui. Tout d'abord, un récit que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, à l'école du dimanche. Il y a des récits que je préférais parmi beaucoup d'autres. J'aimais beaucoup Daniel dans la fosse aux lions, ça me plaisait beaucoup. J'aimais beaucoup David et Goliath. Et j'aimais beaucoup Élie. Et j'aimais beaucoup Élie et la veuve de Sarepta, le miracle dans la disette. Donc, dans 1 Roi 17, versets 10 à 16. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois, il l'appela et lui dit « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle l'appela en puiser. Il lui dit encore « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois. » Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste, nous le mangerons et puis nous mourrons. Élie lui dit alors, n'aie pas peur. Va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord cuis-moi une petite galette et apporte-la moi. Ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme alla faire ce qu'Élie avait demandé, et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et la vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. L'autre texte qui est proposé, c'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, les versets 24 à 28. Un texte que je trouve... Je pense que si on me l'avait lu quand j'étais enfant, je n'aurais pas forcément tout compris. Mais un texte maintenant, avec l'aide des frères et des sœurs et tout ce qui a pu être déjà enseigné, je trouve extraordinaire. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à souffrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous voulons encore aujourd'hui être au bénéfice de cette vérité qui construit nos vies, qui éclaire nos vies et qui nous garde dans ta main. Amen. Alors j'aimerais, avant de méditer avec vous ces textes un peu, commencer d'abord par un témoignage. Un témoignage, vous allez comprendre pourquoi j'ai à cœur de le partager. Samedi dernier, avec Jocelyne, nous étions à une rencontre d'une communauté dont je fais partie depuis plus de 30 ans, qui s'appelle l'Union de prière. C'est une communauté donc non résidente et on se réunit plusieurs fois par an. On reçoit une liste de lectures bibliques quotidiennes qu'on médite et puis on partage ensemble et on a des retraites communautaires. Une communauté interconfessionnelle et j'en suis membre depuis plus de 30 ans. Et notamment, cette communauté, elle se nomme des responsables qui veillent un peu à ce qui est enseigné, ce qui est prêché et ce qui est partagé dans la prière. Et un de nos responsables, c'est un pasteur d'une église à Belleville, à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez Paris. Dans le quartier de Belleville, il y a une grande église dont il est le pasteur. Il s'appelle Serge Jacquemus. Il vient d'avoir 60 ans. Et c'est un homme que je connais depuis plus de 30 ans, et il a un témoignage un peu étonnant, parce que il n'était pas chrétien, c'était un instituteur qui trafiquait de la drogue. Donc il s'est retrouvé en prison, Et c'est en prison qu'il a rencontré le Seigneur. Il s'est converti, il est devenu pasteur. Il a eu un ministère étonnant de par son expérience. Et là, pour la fin de... Depuis 10 ans, en gros, pour la fin, de son ministère, l'Église lui avait confié l'Église de Belleville à Paris, qui est une des plus grandes églises protestantes de France. Ils avaient jusqu'à 3 cultes par dimanche le matin. Et c'est un homme de Dieu que je trouve remarquable par ses enseignements et que j'apprécie beaucoup par sa vie, de par le témoignage et ce qu'il en a aussi sorti dans sa vie. Et voilà qu'il a vécu cette année quelque chose de tout à fait impressionnant. Il nous a accueillis samedi dernier en disant « Je ne devrais pas être là parce que normalement je serais mort ». Vous savez sans doute que l'Église protestante de France a vécu un tourment pas possible cette année parce qu'une grande partie de ses membres ont décidé de bénir les couples homosexuels, ce qui est une tragédie, ce qui est vraiment, et je le dis, une offense devant l'Éternel, ce qui est aussi une tragédie pour ce pasteur qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Et voilà ce qui s'est passé. Le jour où il devait aller au synode de la région parisienne pour commencer à débattre de ce sujet, il en était un des plus farouches opposants, pour les raisons que, bien sûr, vous pouvez comprendre. Il est tombé malade ce jour-là. Septicémie généralisée. Reins bloqués. Aucun traitement antibiotique ne marchait. Il a déliré pendant des mois, entre la vie et la mort, péricardite, endocardite. Les médecins, le pronostic était complètement engagé. Il devait mourir. Et durant ces mois, il a vécu, il disait, comme dans un état second, à cause, je pense, du traitement. On cherchait les antibiotiques qui pouvaient fonctionner. À cause aussi du fait qu'il était vraiment pas bien, évidemment. Les reins bloqués, enfin, tout a, il était sous perfusion. Il a dit, j'étais comme crucifié sur la table de mon lit d'hôpital. J'avais des perfs partout. Il était dans un espèce de semi-délire, souvent à cause de la fièvre et tout ça. Il a vécu un temps d'épreuve terrible où il a eu l'impression qu'il était dépouillé de tout, même spirituellement, qu'il ne lui restait plus rien que la foi en Jésus, c'est tout. Et puis, les médecins qui désespéraient en fin de compte ne savaient pas comment ça allait se passer. Et au bout de quelques mois, ils ont enfin trouvé ce qui pouvait le rétablir. Il a commencé à aller un peu mieux. L'Église, bien sûr, priait pour lui. Et au bout de 8 mois, il sort enfin de l'hôpital. Et le jour où il sort de l'hôpital, c'est le jour où le synode national a fait ce vote. Il a dit « J'ai été comme mis à l'écart par Dieu durant tout le temps de cette déchirure dans l'Église et j'ai souffert. Mais j'ai failli mourir. » Et voilà ce qu'il nous a dit. Il a dit « Je suis ressorti de cette épreuve complètement transformé parce que dans mon cœur a été gravée une seule pensée. Comme un ordre que Dieu m'a donné, je te laisse en vie pour une seule raison. Je t'ordonne de ne plus prêcher autre chose que mon retour. Tout ce que tu vas faire maintenant ne s'ordonnera que dans la perspective de mon retour. Ne prêche, n'enseigne plus autre chose que cela. » C'est arrivé avant les grandes vacances, son ministère a complètement changé, l'Église ne le reconnaissait plus. Il a perdu 14 kilos, il est métamorphosé. Il est beaucoup plus humble qu'avant, comme s'il était passé, vous savez, par une épreuve de feu, c'est le cas. Et toute sa prédication, tout son ministère ont été transformés. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je voulais partager cela? Parce que d'abord, Justine et moi qui connaissons, on a été bouleversés par ce témoignage. Et surtout parce que, à travers de cela, j'ai compris une chose. Vous savez, je suis professeur, vous le savez. Je me rends compte que mes élèves, notamment en terminale, je n'arrive à leur enseigner correctement que si je leur donne le fil directeur de tout ce que je vais leur apprendre. S'ils savent d'où on part et où on va. Or, la Bible est très claire. Dieu sait très bien d'où on part et où on va. Et c'est ce que dit le texte de l'Épître aux Hébreux. Et c'est là où je voulais en venir. C'est clair que nous sommes, d'après ce texte-là, dans les temps de la fin. Pourquoi ? Parce qu'il est dit que Jésus est venu mourir pour nous une première fois, une fois pour toutes, au temps de la fin. Et que maintenant nous attendons sa seconde venue. Nous sommes donc entre ces deux temps que Dieu va accomplir certainement. Comme il a déjà accompli le premier, il accomplira le second. Et plus rien dans notre vie ne peut s'ordonner autrement que dans cette direction-là. Autrement, nous ne sommes pas adaptés, accordés à la volonté de Dieu, au temps de Dieu, à l'agenda de Dieu. nous sommes en dehors. Et nous nous perdons. Les églises, les communautés qui ne sont pas accordées à cette vision-là se perdent. Elles sont en dehors de l'agenda de Dieu, en dehors du temps de Dieu pour elles et pour le monde. En fin de compte, ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est que nous sommes, depuis la résurrection du Christ, le peuple de l'attente et le peuple de l'espérance dans ce monde. Si notre espérance et notre attente de la venue du Messie est vibrante, vivante, aussi vibrante qu'elle l'était pour ceux qui ont écrit l'Épître, pour les premiers chrétiens, nous sommes le peuple de l'attente et de l'espérance dans ce monde, pour notre génération. Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Il n'y en a pas d'autre. Aussi, nous devons reconsidérer nos vies, nos prédications, nos enseignements, nos engagements, nos relations, dans ces perspectives de la certitude que Jésus revient. Alors, et c'est là où j'ai trouvé le lien entre ce texte de l'Épître aux Hébreux et le texte de Sarepta. Comment attendre ? Comment rester un peuple qui témoigne de l'espérance du retour de Jésus ? Qui témoigne de la certitude que l'histoire aura une fin, que l'histoire a un maître, et que ce maître de l'histoire la conduit à son terme, aussi bien pour ma vie personnelle, pour la vie communautaire, que pour la vie du monde, et même pour la vie de tout l'univers. Et bien là, il y a une leçon à prendre dans ce récit d'Élie à Sarepta. Tout d'abord, peut-être, je dirais aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, c'est comment être nourri pour rester un peuple de l'espérance, le peuple de l'attente. Comment être nourri au quotidien pour demeurer un témoin de l'espérance, de la seule vraie espérance. Il n'y en a pas d'autre. Le XXe siècle est une démonstration de la folie des faux messianismes et des espérances fausses. Le communisme, le nazisme et maintenant l'islamisme. Ces folies qui détruisent l'homme parce qu'elles sont de fausses espérances, de fausses attentes messianiques. Vous vous souvenez d'Hitler, le Reich de 1000 ans ? Vous vous souvenez ce que disait Marx ou autre, en fin de compte, la révolution, le royaume du prolétariat ? Ce sont des messianismes, on espère quelque chose, et ça mobilise. Fausses espérances qui ont produit des millions de morts, du Goulag au four crématoire, au massacre de Daesh en Syrie. Fausses espérances. Faux messianisme. Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Nous sommes le peuple de l'espérance, le peuple de l'attente. Comment faire ? Alors j'ai été un peu curieux et je me suis dit d'abord, dans ce récit d'Élie, que veut dire le mot Sarepta ? C'est tout à fait étonnant. Sarepta, ça vient du mot hébreu. Attention, je vais aller chercher, je ne sais pas par cœur ça. Saraf. C'est un verbe, vous savez qu'en hébreu, on prend trois consonnes puis on décline plein de mots dessus. On appelle ça une racine, en fin de compte. Et la racine de Sarepta, c'est le verbe tsaraf. Et le verbe tsaraf, ça veut dire purifier, épurer, passer au fond du fondeur. C'est le verbe qu'emploient techniquement les orfèvres, lorsqu'ils font fondre des métaux pour les purifier de toute impureté. Autrement dit, Sarepta, ça veut dire le lieu de l'orfèvre. L'atelier du fondeur, l'atelier de celui qui purifie, qui sanctifie, qui épure et qui émonde. Et c'est là où Dieu envoie Élie. Et quand Élie part-il à Sarepta ? C'est étonnant, je n'ai pas tout lu. Juste avant, qu'est-ce que Élie a prophétisé, ceux qui connaissent le texte ? Élie a prophétisé à Akab une longue période de disette et de famine. Parce que Akab est un roi impie qui ne fait pas la volonté de Dieu et tout le peuple va en payer les conséquences. Et cette année de disette, ce temps de disette arrive, cette famine arrive. Et alors Dieu envoie Élie à Sarepta dans la ville de l'atelier de l'orfèvre, de l'atelier de celui qui purifie, qui émonde, qui nous brûle au feu du fondeur pour nous purifier et nous sanctifier. Pour retirer de nos vies, pour retirer de la vie d'Élie, tout ce qui est scorie, tout ce qui est impureté, tout ce qui est imperfection. C'est étonnant, Dieu envoie son prophète là-bas, tant on dit que son prophète n'est pas encore un homme parfait, puisqu'il a besoin d'aller à Sarepta, dans l'atelier du fondeur, dans l'atelier de l'orfèvre de nos vies, celui qui seul peut en faire un joyau et un bijou à sa gloire, épuré de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et là, Élie va être nourri. Et quelle nourriture va-t-il lui être donnée? Tout d'abord, ce qui est impressionnant, c'est que ce texte peut nous rejoindre parce que je me suis posé la question, sommes-nous dans un temps de disette? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que tout à l'heure, on ira manger quelque part? Oui. Nous ne sommes pas dans un temps de disette aujourd'hui matériel, nous sommes dans un temps de disette inverse. Nous sommes dans la disette de la surabondance. Nous sommes dans la disette de l'excès. Nous sommes dans la disette de la satisfaction matérielle à outrance qui nous fait oublier nos besoins spirituels. Et l'Occident, c'est ça. Pierre en parlait encore mieux que moi, lui qui est allé plusieurs années à Madagascar, où je suis allé que deux fois en Afrique. Et là, la disette est tout à fait autre. Pourtant, ils envient notre matériel, notre richesse, notre opulence, qui est une forme de disette terrible. Parce qu'en Afrique, c'est la mort physique par manque de nourriture. Ici, c'est la mort spirituelle, par excès de matériel et manque de nourriture spirituelle. C'est une disette. Nous sommes en disette. Et le peuple de l'attente, le peuple de l'espérance, est au milieu d'une génération qui est dans la disette. Et nous, nous savons ce qui rassasie. Nous connaissons ce qui rassasie. Et nous pouvons le partager à condition que nous nous en nourrissions nous-mêmes. Parce que nous savons que c'est bon. Parce que nous l'avons goûté. Parce que nous le mangeons. Sarepta, ce temps de disette, ça peut être cela. Mais ça peut aussi être autre chose. Vous voyez, moi je crois vraiment que nous sommes dans une société qui est dans la disette. Quand je vois mes élèves aujourd'hui, cette foule perdue sans berger, quelle disette que cette mort spirituelle. Quelle disette que cette vie qui n'a pas de sens. Quelle disette que cette vie stupide, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Et dans cette disette-là, Dieu se choisit un peuple qui va témoigner qu'il y a une nourriture qui donne la vie et qui donne l'espérance. Et cette nourriture, elle est toute simple. C'est étonnant. Quels sont les ingrédients? Vous avez retenu les ingrédients? De la farine et de l'huile. Alors, je suis allé faire une recherche sur Internet très difficile. J'ai tapé « recette de la veuve de Sarepta ». Et je suis tombé sur une recette. C'est la recette traditionnelle des galettes sans levain qu'on fait dans tout le Moyen-Orient. Qu'on fait aussi au Mexique, vous savez, avec du maïs. Mais que faisaient aussi les hommes préhistoriques depuis des générations avec de l'épeutre. C'est tout simple. Il faut prendre de la farine avec de l'eau tiède, chaude mais pas bouillante. On mélange. On met de l'huile surtout au-dessus. On étale et on pose soit directement sur la braise, soit sur une pierre qui a été chauffée, ou soit, quand on est plus moderne, sur une plaque en métal qui a été chauffée. Évidemment, vous avez tous vu déjà ces galettes. En fin de compte, elles sont très plates. Mais elles sont nourrissantes et c'est la base de la nourriture pour encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui quotidiennement font cette galette-là. Ça fait à peu près 10 000 ans qu'on fait ça. C'est un plat de base pour toute la civilisation du riz, du blé et du maïs. Et bien sûr, Élie et la veuve de Sarepta sont dans cette civilisation du blé et de la farine. Et puis un dernier ingrédient, vous avez entendu, donc l'eau, la farine, l'huile. Mais il faut du feu. Vous avez bien mangé des galettes pas cuites? C'est pas terrible. Et alors je me suis arrêté en me disant, mais Seigneur, que représente cette farine, cette huile, que tu promets à Élie qu'il n'en manquera jamais pendant la disette? Elles seront toujours disponibles, inépuisables. Alors, peut-être que je vais vous dire, c'est une interprétation que j'en ai, on pourrait peut-être en faire d'autres, mais elle me semblait cohérente par rapport à ce que je voudrais vous partager. La farine, c'est la parole de Dieu écrite sur un papier, entendue, mais qu'on a stockée dans un frigo, qu'on a stockée dans une armoire. Tant qu'on ne la recherche pas et qu'on ne la mélange pas avec les autres ingrédients, elle n'a aucun intérêt. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui ont des Bibles stockées chez eux qu'ils ne lisent jamais? Combien, parfois dans nos vies, quand nous avons un choix à faire, quand nous avons une question qui nous interpelle, nous n'allons pas systématiquement chercher la farine pour la sortir de l'armoire et du frigo, pour qu'elle libère alors, si on l'utilise, toute la puissance qu'elle contient, potentiellement, mais qu'elle ne peut libérer que si on l'utilise. Je me souviens de deux jeunes à qui on avait offert la Bible, vous savez, à leur mariage, et quelques années plus tard, un des jeunes m'avait dit qu'il ne l'avait encore jamais ouvert. On leur avait offert, c'était très bien. Mais ils avaient laissé la farine au frigo. Tant que vous ne l'ouvrez pas, ça beau être la parole de Dieu, elle ne libère pas sa puissance. Elle ne libère pas tout ce qu'elle contient. Elle est potentiellement là, mais vous ne l'utilisez pas. Nous ne l'utilisons pas. Alors pour réveiller cette farine, pour en faire un ingrédient qui va pouvoir nous nourrir, il faut mettre de l'eau. Et l'eau, qu'est-ce que c'est? L'eau, c'est la foi. Parce que si j'ai confiance dans cette parole, si j'en ai besoin, alors je vais l'ouvrir et je vais y chercher. Je vais être réceptif, je vais être accueillant. Je vais avoir faim de m'en nourrir. Pourquoi parmi nous, je pense, beaucoup, on lit la parole? Parce que on a appris que sans elle, notre vie est vide. Que sans elle, on n'a pas le phare qui nous éclaire. Que sans elle, on n'a pas la réponse qui nous permet d'orienter notre vie. Au quotidien, comme, je dirais, dans la direction essentielle. Elle est la parole vivante, à condition que j'y vais avec confiance. Que je rends à la farine la possibilité de me nourrir en y mettant l'eau de ma foi pour qu'elle me nourrisse. Je connais quelqu'un qui lit la Bible sans la foi et qui a dit, c'est un récit très rigolo, il trouve ça très rigolo, un bon conte pour enfants. Il la lit sans la foi, elle ne la nourrit pas. Et pourtant, il la lit. Alors, vous voyez, on prend la farine, on la sort avec confiance, on y met l'eau de notre foi et on commence à faire des belles boules. Mais ce n'est pas suffisant. Il manque un liant. Le liant qui va permettre finalement à la boule d'être et l'eau et la farine de bien être ensemble, c'est l'huile. Et l'huile, qu'est-ce qu'il représente dans la Bible? C'est l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit. Je peux avoir la foi, je peux lire la parole, si l'Esprit Saint ne m'éclaire pas, le liant n'est pas fait. Alors je nous pose une question, je me la pose à moi aussi. Quand je lis la Bible, est-ce que je prie le Saint-Esprit avant? Avons-nous tous l'expérience, mais personnelle, de prier le Saint-Esprit? Cher Saint-Esprit, viens comme de l'huile, nourrir ma foi, éclairer ce texte, pour qu'il devienne pour moi le pain de vie. Parce que sans toi, Saint-Esprit, je ne peux pas le comprendre. Mon intelligence humaine ne suffit pas. C'est Jésus qui a dit, qu'il nous enverra ce consolateur, ce paraclet, pour nous rappeler toutes choses, pour nous enseigner. C'est notre pédagogue. Et ça m'a interpellé, et franchement, je nous pose la question, je ne donne pas la réponse, c'est une question. Quelle relation ai-je personnellement avec le Saint-Esprit? Je vous avoue que je trouve que c'est plus facile de dire quelle relation j'ai avec Jésus. Je trouve que c'est peut-être plus facile de dire quelle relation j'ai avec le Père. Et quelle relation j'ai avec le Saint-Esprit, qui est une personne de la Trinité? Est-ce que nous prions le Saint-Esprit? Est-ce que nous l'invoquons? Est-ce que nous l'espérons? Est-ce que nous l'attendons? Pour que justement, il soit celui qui nourrisse notre foi, qui lui permette, avec la parole, d'être saisi pour que nous grandissions et que nous comprenions la volonté de Dieu. Et enfin, il reste le feu. Parce qu'une fois qu'on a tout lié, il reste le feu. Parce que même s'il y a le Saint-Esprit, même s'il y a la farine et s'il y a l'eau, ce n'est pas encore consommable complètement. C'est quoi le feu pour vous? Je me suis posé la question. C'est l'amour. C'est l'amour. Comme le disait Pierre, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, des trois, c'est l'amour. Pourquoi c'est l'amour? Parce que il n'y a qu'au feu de l'amour, cet amour qui fait que on s'attache à Dieu, on s'attache à Jésus affectivement, émotionnellement, avec nos cœurs et notre tripe. Plus je vieillis, plus je me rends compte que je ne peux pas vivre sans lui. Je suis rien sans Jésus. J'ai besoin de lui. Je ne peux pas vivre sans lui. Sans lui, je suis mort. Je ne peux pas vivre sans lui. Je ne suis qu'un pécheur écrasé par son péché si je ne suis pas en relation avec Jésus. Je ne suis pas au bénéfice du sacrifice qu'il a eu pour moi. Sans lui, je suis mort. Je ne vis pas. Je n'aime pas. Tout est incomplet, imparfait dans ma vie. J'ai besoin de lui. Et plus je vieillis, plus ce besoin est tangible et patent. Tellement Dieu me révèle, l'Esprit Saint, quand je lis la parole, à quel point je reste un pécheur, un homme faible et faillible, mais pardonné et sauvé, guéri du péché, relevé, ressuscité. Une grande sainte catholique disait « L'amour est en lien avec la crainte de Dieu. » Parce que la crainte de Dieu, c'est la peur amoureuse d'offenser celui qu'on aime. La crainte de Dieu, c'est la peur amoureuse d'offenser celui qu'on aime. Je trouve ça magnifique. Quelle belle définition de la crainte de Dieu. Si ce pain que nous avons préparé ne passe pas au feu de l'amour de notre relation avec Jésus-Christ, il n'est pas cuit. Et je me dis que parfois, nous partageons ce pain sans amour. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand ce pain, on le partage sans amour, c'est le pain des pharisiens. C'est le pain des docteurs de la loi. C'est le pain de ceux contre lesquels Jésus disait « sépulcre blanchi ». C'est la parole, mais il n'y a pas l'amour. Elle n'est pas dite, partagée, passée au cuit, au feu de l'amour. Le feu de cette relation intime avec Jésus. Alors, frères et sœurs, voilà ce qui nous est promis dans les temps de disette que notre génération traverse. Et j'aimerais parler aussi d'une autre chose. Je vois que le temps passe, mais je vais vite conclure pour ne pas trop vous en prendre, parce que je pourrais parler des heures, tellement ce texte m'a inspiré. Les temps de disette, ils sont aussi personnels. Ce sont les temps d'épreuve. Ce sont les temps d'épreuve où on a l'impression que tout s'effondre. On a l'impression que Dieu n'est plus avec nous. Et mon frère, ma sœur, si tu n'en as pas connu dans ta vie, il y en aura. Les temps d'épreuve, vous savez, peut-être que vous connaissez ça, moi je connais ça, où ce vieux péché contre lequel je lutte depuis tant d'années revient. Et j'ai l'impression de pouvoir en être maître. Seule la grâce de Dieu peut m'en sortir. Ces combats qui durent dans nos vies, ces addictions qui durent parfois dans nos vies, ou peut-être dans nos vies, ce sont nos disettes. Et là, Dieu nous dit, peu importe, je t'amène à Sarepta. Nourris-toi de moi chaque jour. Prends la farine. Appelle l'huile. Mets-y ta confiance. Et mange cela dans la relation confiante avec moi. Et je te promets, comme Élie l'a entendu, que le temps de la disette s'arrêtera et que tu auras été nourri et construit, épuré durant tout ce temps. Dieu est le seul qui est capable de racheter le temps. Même nos disettes les plus terribles, il peut les racheter et les retourner en grâce pour nous et pour les autres. C'est ça le rachat, c'est ça la rédemption. Je suis sûr qu'elle nous est acquise à la croix une fois pour toutes, mais pour tous les jours de notre vie, pour toutes les occasions. Toutes les occasions où nous avons besoin du rachat. Et il y en aura encore dans notre vie. Nous aurons besoin du rachat. Je suis sûr d'une chose, c'est que depuis que Christ est mort pour nous, sa première venue, Dieu a pour nous un regard favorable. Quelle que soit la disette dans laquelle je me trouve, Dieu a sur moi un regard favorable. Et si je me nourris de sa parole, dans la foi, en invoquant l'Esprit Saint, en recherchant l'intimité avec Jésus, je passerai cette disette. Et j'aurai alors le visage d'un ressuscité qui témoignera de l'espérance dans ce monde pour ceux qui m'entourent. Si nous nous nourrissons chaque jour du Seigneur, nous devenons des porteurs d'espérance pour notre génération dans les temps de disette, dans les temps du feu de l'épreuve, jusqu'à ce que Jésus revienne. Que nous puissions être ici, et je sais que déjà nous le sommes, que nous puissions continuer d'être une communauté de l'espérance, une communauté de l'attente, qui témoigne dans nos vies, dans nos familles, dans notre quotidien, que Jésus est venu et qu'il vient, et que dans ce temps d'attente, il se rend présent quotidiennement pour nous nourrir, si nous y adhérons par la foi, simplement, et que dans nos disettes, il est présent pour nous ressusciter. Amen.